I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
J'ai eu l'impression de faire un livre assez personnel, c'est-à-dire que c'est moi, c'est autobiographique, c'est mon mec, c'est mon chat, c'est notre enfant, et en même temps, il y a beaucoup de mamans qui m'ont dit qu'elles se reconnaissaient dans ce livre-là.
Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis auteur illustrateur à Paris et vous pouvez me suivre sur Instagram @JérémyKleiss. Vous n'êtes pas sans le savoir, la semaine dernière, c'était la fête des mères en France. Et oui, du coup, pour ce nouvel épisode du podcast, je suis heureux de vous présenter ma discussion avec Aurore Petit, illustratrice depuis plus de 14 ans et auteur d'une vingtaine de livres dont le magnifique Une maman, c'est comme une maison. Et ce n'est pas tout, car Aurore est devenue maman pour la deuxième fois durant le confinement. Du coup, on est en plein dans le sujet. On va parler de parentalité, de maternité et de créativité. Aurore nous parle de son parcours, de sa vie avant d'être maman, de son travail de commande pour la presse, la com ou encore l'édition. Et puis, arrivent les enfants. Et là, chamboulement. Aurore découvre une nouvelle vie. Et ça tombe bien puisque dans cet épisode, elle nous raconte en quoi avoir des enfants a changé son regard sur son travail, comment ce nouveau rôle l'a aidé à plus se faire confiance, à s'assumer et à se recentrer sur l'essentiel. Et puis enfin, elle nous parle évidemment de l'élaboration de son livre « Une maman, c'est comme une maison », de son processus de création parsemé de doutes et en quoi devenir maman est devenu pour elle un puits d'inspiration sans fin. Pour info, confinement oblige, cette discussion a été enregistrée à distance. C'était la première fois que je menais une interview de cette manière, et vous l'entendrez peut-être, j'ai eu quelques petits soucis techniques. Par moments, le son fait quelques ratés. Bon, heureusement, j'ai réussi à rattraper le coup, mais si par endroit vous entendez un mot un petit peu coupé ou un grésillement, c'est pour ça, je préférais vous prévenir. On fait de son mieux, hein. Alors, sans plus tarder, je suis heureux de partager avec vous ma discussion avec Aurore Petit. Bonne écoute.
Je crois que c'est parti.
C'est parti.
Aurore, je suis trop content de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. Écoute, j'ai envie de commencer cette interview en te félicitant pour la petite Astrid.
Ah, merci, merci. Ouais, c'est ça, c'est sûr que je ferais pas grand chose de mieux. Ouais, elle est née il y a 2 mois. C'est ça, elle a 2 mois et 1 semaine, là.
J'imagine que ça répond parfaitement à la première question qui est qu'est-ce qui te fait sortir du lit le matin?
C'est vrai que pendant des années, ça a été le travail et l'envie de faire des projets, des images, de produire, de dessiner, etc. Et là, depuis quelques années, parce que j'ai un premier enfant qui a 3 ans, donc depuis 3 ans, je me lève du lit souvent plus tôt que ce que je voudrais, parce que c'est eux qui m'arrachent du lit. Mais c'est vrai que ça. Avant de commencer ma journée de travail, il y a un premier chapitre qui est de passer du temps avec eux et puis de les envoyer passer leur propre journée, quoi. Enfin, d'envoyer le grand passer sa propre journée déjà. Parce que pour l'instant, ouais. Astrid, elle reste avec moi toute la journée. Et donc oui, le matin, c'est vrai que jusqu'à présent, quand je me mettais à mon travail, j'étais encore vierge de beaucoup de choses en fait, fraîche de la nuit, les idées claires. Alors que là, c'est vrai que quand j'arrive à mon atelier, j'ai déjà passé 2 heures à gérer du quotidien, à emmener Armand à la crèche, à le préparer, tout ça. Et donc, du coup, j'ai déjà beaucoup parlé, en fait, à ce moment-là, à 10h du matin, quand je me mets à mon travail. Et je suis plus du tout dans la même disposition qu'avant. C'est très différent. Ouais. Des fois, j'arrive à 10h du matin, je suis déjà au bout de ma vie, en fait.
Ah oui, bah oui.
Ouais. Ça arrive. Heureusement, c'est pas tous les jours, mais ça arrive.
Ah, c'est particulier, hein. Mais c'est notamment pour ça que j'avais vraiment envie de pouvoir discuter avec toi et parler de cet équilibre maman, auteur, illustratrice. C'est tout un sujet, c'est tout un équilibre qui est pas facile à...
Oui, oui, oui. Et en même temps, moi, j'avais très peur de ça avant d'avoir des enfants. Parce que je les ai eus tard quand même. Moi, j'ai 38 ans. Armand, il est né quand j'avais 35 ans. Donc, ça faisait déjà ça fait déjà presque 10 ans que je travaillais, et j'avais très peur que ça marque une rupture dans mon travail, qu'après ce soit fini, en fait, que j'arrive plus à trouver l'énergie pour travailler, pour trouver du temps, pour faire de la recherche. Et en fait, finalement, c'est un peu le contraire qui s'est passé, je crois. Les journées sont plus courtes, donc il faut être un peu plus efficace. Et puis, il m'inspire énormément, quoi. Il me donne des idées. Ouais. De lire aussi beaucoup d'albums jeunesse avec lui. Je me rends compte de ce qu'il aime, de ce qu'il aime pas. De moi aussi, ce que j'aime lire, de ce que j'aime pas lire. Et donc, du coup, ça m'aide à aller plus vers ce que je veux, quoi. Ça, c'est quelque chose qui me fait avancer.
Ouais. Ça m'a fait pareil. Il y a 2 ans, en fait, j'ai découvert que j'avais moins de temps et que je suis devenu 2 fois plus efficace, en fait.
Bah, c'est ça, c'est clair. Et puis, il y a aussi le fait que dans l'équilibre, projet d'auteur, projet de commande, être parent et tout ça, c'est quand les journées sont plus courtes et qu'on a moins de temps, je pense qu'on s'autorise plus aussi à refuser des choses qui sont pas primordiales.
Ouais.
Et on va plus vers vraiment notre travail plus intime, en fait. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Je vais plus vers un travail plus intime.
Tout à fait, ouais. Bah, on va pouvoir discuter de tout ça. Je voudrais te demander aussi comment ça s'est passé pour toi, le fait que t'es devenue maman pour la 2e fois pendant le confinement. C'est pas tous les jours que je peux poser cette question à quelqu'un.
Ouais.
Donc, du coup...
Bah, en effet, Astrid, elle est née le 14 mars. Donc, c'était juste... En fait, je crois que Macron a parlé pour la première fois le 12. Il a annoncé la fermeture des écoles et des crèches. Et donc, moi, j'étais en toute fin de grossesse. Et donc, à ce moment-là, il était question qu'on reprenne Armand à la maison à plein temps. Et en fait, c'était le jeudi soir qu'il a parlé, il me semble. Jeudi 12, ouais. Le vendredi, j'ai eu une journée très angoissante à me dire, mais comment je vais faire si jamais je dois partir à la maternité en pleine journée et Carmen est là. Enfin, il y a toute une logistique, en fait, qui m'a rattrapée. Et en fait, on devait trouver des solutions auxquelles on n'avait pas réfléchi les semaines précédentes. Et finalement, mes parents sont venus. Enfin, ça s'est quand même assez bien goupillé. Et elle est née le samedi, quoi. Donc finalement, heureusement qu'elle est arrivée à ce moment-là et pas une semaine plus tard, parce que sinon, ça aurait été beaucoup plus galère, je pense.
Ouais.
Et en fait, j'ai eu un peu l'impression que la planète entière était en congé maternité avec moi. J'ai une copine qui m'a dit un congé maternité pendant le confinement, c'est un peu comme une mise en abîme. Et en fait, je crois que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que finalement, nous, on n'avait pas prévu grand-chose non plus pendant ces mois-là, de avril-mai, parce qu'on savait qu'on allait avoir un tout petit bébé.
Ouais.
Et donc, professionnellement, j'ai pas été trop impactée parce que j'étais en congé maternité, donc ça, c'était aussi assez confortable et rassurant. Mais du coup, ça nous a fait du bien, je crois, d'être tous les quatre dans un rythme hyper ralenti, où en fait, on a fait un peu le deuil de notre travail aussi pendant plusieurs semaines. Et puis aussi, Armand a réagi de manière très forte à la naissance de sa sœur. Il a été un vrai petit démon pendant plusieurs semaines. Et donc, je pense que c'était bien qu'on le vive,
ouais,
qu'on le vive pleinement et frontalement, parce que ça devait arriver à un moment donné. Donc voilà, du coup, ça, j'ai l'impression que c'est fait. On a trouvé notre équilibre à quatre. Et puis, comme je te le disais juste avant l'enregistrement, là, c'est que on a pas fini complètement le confinement chez nous. On a une autorisation pour rejoindre mes parents à l'autre bout de la France, parce qu'on habite à Nantes et mes parents sont en Haute-Savoie. Et donc, il y a une semaine avant la fin du confinement, on a traversé la France, cette France en guerre et déserte. et on est venu chez mes parents pour avoir un peu de relais et pour que surtout mon mec, Mathis, il puisse travailler un peu.
Ouais.
Pour essayer de retrouver un petit peu une vie normale.
Ouais. Et toi, c'est pas tout de suite que tu vas retrouver une vie normale.
Bah officiellement, mon congé maternité, il se termine le 1er juin. Donc logiquement, je devrais retravailler, mais là pour l'instant, ça me semble un petit peu compliqué. Mais j'ai des engagements, par contre, j'ai des engagements pour septembre et tout ça, donc il va falloir que je trouve la solution pour travailler pendant la sieste, ou que ça va être un petit peu sport, mais en même temps, vu que là le déconfinement. Le déconfinement est de plus en plus ouvert. Peut-être qu'on s'arrangera avec des parents pour faire des gardes, leur confier nos enfants, et puis que quelques jours, enfin une journée, et nous on les prend une journée, ou pour avoir une journée sur deux. Je sais pas trop comment on va s'organiser.
Ouais, c'est un peu freestyle en ce moment.
Ouais, c'est clair.
Ouais, pendant le confinement, moi, c'était pareil. Le matin, avant que mon fils se réveille, pendant la sieste, tout le soir, mais le matin, t'es décalqué. Pendant la sieste, t'essuies les plâtres. Le soir, t'es épuisé. Et...
C'est ça. Et puis, il faut savoir se mettre en mode on-off très rapidement.
Ouais.
C'est-à-dire que, hop, dès qu'il dort, hop, on se met à bosser. Ouais. Et ça, c'est pas forcément évident.
Ouais. Je suis devenu beaucoup plus flexible, moi, par an. Je suis devenu beaucoup plus efficace. Après, bon, il faut y trouver les bonnes circonstances. Et j'avoue que le confinement à la maison, c'est pas évident. Mais ouais. Du coup, est-ce que tu pourrais me raconter un petit peu tu pourrais un peu te présenter ce que tu fais dans la vie et me parler un petit peu de ton arrière-plan.
Ok. Alors, je m'appelle Aurore Petit. Bonjour, bonjour. Je suis autrice et illustratrice depuis 2006, donc ça fait un petit moment quand même maintenant. Enfin, un petit moment. Ça fait 14 ans que je fais ce métier. Ouais. C'est pas très original, mais j'ai fait les arts décoratifs de Strasbourg. Comme beaucoup. Donc, je suis sortie de cette école en 2006. Et depuis, je fais de la commande, d'illustration, et je fais des projets d'auteur pour lesquels j'écris et je dessine. Et je fais aussi des projets où je suis illustratrice, mais où je me considère plus comme co-auteur avec mon compagnon qui s'appelle Mathis, qui fait aussi des livres de son côté. Quand on fait des livres ensemble, c'est moi qui dessine, c'est lui qui écrit. Mais ce sont des livres qui sont pensés vraiment à deux, aussi bien au niveau du texte que des images. Donc voilà un peu les différentes choses. Après, sur 14 ans, il s'est passé quand même pas mal de périodes différentes. Il y a eu des périodes où j'ai fait que de la commande, où j'ai pas du tout développé mon travail d'auteur. Des périodes où j'ai fait que de la commande d'édition, des périodes où j'ai fait beaucoup de presse, de la com. Et puis voilà, aujourd'hui, j'essaye de composer un petit peu avec toutes ces choses-là. Et c'est un équilibre qui est très mouvant. C'est jamais tout le temps pareil, en fait. Mais ça me va très bien. J'aime bien. Le fait que ça change, le fait d'avoir des années qui se suivent et qui se ressemblent pas.
Alors c'est plein de vie, quoi.
Ouais, c'est clair.
Si je me trompe pas, en 14 ans d'expérience, au début, tu avais commencé avec de la presse.
Ouais.
Et puis, donc, c'est à travers la presse que je t'ai découvert, d'ailleurs, en fait. Moi, je me suis lancé en 2013 et l'une des premières publications... J'ai illustré un dossier pour Philothéo et c'est là que je t'ai découvert en fait. Et du coup, quand j'ai feuilleté ce magazine, je suis tombé sur ton travail. J'étais genre waouh. En fait, je t'ai découvert quasi en même temps que le début de ma carrière.
Oui, là tu parles de presse jeunesse, Bayer Presse,
ouais.
La presse, tout ça.
Ouais, ouais.
Et ça, c'est arrivé un peu plus tard parce que au tout début, en fait, quand je suis sortie des Arts Déco, quand j'ai démarché et j'étais voir les éditeurs et les directeurs artistiques. Les retours que j'ai eus, c'était surtout que ce que je faisais, c'était pas du tout pour la jeunesse et plutôt pour les adultes. Donc en fait, j'ai plutôt publié dans la presse adulte au départ.
Ah d'accord.
Ouais.
Intéressant.
Et donc du coup, après, j'ai un peu arrondi les angles de mon dessin et en effet, j'ai pas mal collaboré avec Bayard, avec Milan. Mais ça, c'est arrivé ouais un peu plus tard. Ça devait déjà faire 2-3 ans, je pense, que j'étais sortie de l'école. Et ça m'a fait un peu, ça a été très formateur en fait, Bayard. Parce que ça m'a permis aussi de voir un peu ce qu'attendaient les éditeurs et les directeurs artistiques de l'édition jeunesse. Moi, j'étais un peu à milieu de ça et en fait, il y a une attente qui est très forte dans la manière de dessiner des personnages.
Ah, c'est clair.
Faire des choses un peu mignonnes. Moi, je savais pas trop faire ça en fait. donc j'ai appris à le faire et j'ai appris à ne plus le faire aussi.
Ouais, mais c'est super intéressant. C'était un désir de faire de la jeunesse pour toi. Toi, t'as commencé en faisant des publications adultes, t'as bifurqué jeunesse et puis t'es revenu. Non, pas vraiment.
Ouais, si, c'est un peu ça. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est pas aussi linéaire finalement. Il y a vraiment des choses qui se passent, des rencontres. En fait, si je reprends un peu l'origine des choses, c'était un peu mon diplôme, quoi, mon projet de diplôme. C'était un album un livre illustré. Alors, quand on veut publier un livre illustré en France aujourd'hui, ben, il y a pas 50 000 solutions. Soit c'est de la bande dessinée et dans ce cas-là, ça peut aller un peu vers la publication adulte. Soit c'est de la micro-édition, un peu auto-publication et dans ce cas-là, on fait un peu ce qu'on veut. Ou alors, si on veut emprunter un circuit de diffusion classique, ça va être de la jeunesse. Ça n'existe pas trop, finalement, les publications de livres illustrés adultes en image unique, qui sont pas forcément narratifs. Enfin, ou alors, c'est vraiment des publications ovnis. Et en sortant de l'école, c'est pas évident de faire publier un livre, en fait, qui est complètement hors format, quoi, hors case.
Ouais.
Et donc, mon projet de diplôme, je l'ai présenté à plusieurs maisons d'édition et il a été publié chez Thierry Magnier par Valérie Cussaguet, qui est devenue l'éditrice après des éditions des Fourmis Rouges. Et en fait, elle m'a amenée, parce que c'était un projet, c'était un bestiaire qui s'appelle Ménagerie, et elle m'a amenée à l'orienter plus vers la jeunesse, justement, pour qu'il puisse trouver un peu un public de ce côté-là. Mais c'est vrai que quand on voit les images, c'est pas du tout ce qu'on attend, enfin, ou ce que le grand public a en tête quand il pense à de l'édition jeunesse ou un album jeunesse. Hein. C'est un peu surréaliste. Certains m'ont dit qu'ils trouvaient ça un peu malaisant.
Ah bon?
Ouais. Okay. Mais c'est parce que c'est un peu étrange. C'est des dessins un peu étranges, quoi. Et donc du coup voilà, c'est elle qui m'a suivie pour la première fois, mais du coup j'ai pas eu de commande en jeunesse tout de suite. C'était des projets que j'amenais. Ça, c'est un projet que j'ai amené en entier. Et puis après, j'ai fait d'autres livres là-bas, chez Thierry Magnier, où c'était aussi des projets que j'amenais en entier. Qu'ils acceptaient de publier, mais par contre, j'en étais pas encore à avoir des commandes qu'on me faisait suffisamment confiance pour illustrer un texte ou autre.
Ouais, ça, c'était entièrement généré par toi, quoi.
Ouais, au début, ouais.
C'est en 2008 que tu as sorti ton premier livre.
Ouais, c'est ça.
Et du coup, c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire et puis tu t'es dit, bon, je fais la presse, la com, ou tu as eu un moment où tu t'es dit, non, j'ai vraiment besoin de développer mon travail d'auteur, en fait.
Ben, en fait, après l'école, donc j'étais à Paris et donc du coup, j'ai publié ce projet-là et en fait, très vite, je suis tombée dans le piège de la commande parce que en vivant à Paris, il fallait vraiment que je gagne des sous et donc du coup non, j'ai fait beaucoup de presse, j'ai fait beaucoup de commandes et j'ai arrêté de développer mes projets d'auteur assez rapidement. Finalement, j'avais pas le temps et puis j'ai un peu perdu confiance en moi aussi par la suite quand on me disait que c'était pas pour enfants ce que je faisais. Donc du coup je pense que je me suis un petit peu perdue en route à un moment donné et donc j'ai fait beaucoup de commandes pendant je dirais 2 ans quoi. Et puis à un moment donné je me suis dit mais que j'avais pas signé pour ça quoi. Quand j'ai choisi d'être illustratrice, c'était pas ça. Et puis en plus dans la presse, il y a quelque chose que j'adore dans le fait de dessiner rapidement, de faire une image rapidement et d'avoir son image publiée le lendemain et que le surlendemain elle n'existe plus. Je trouve ça super. Mais il y a aussi un côté qui dure pas et qui est pas que je sentais pas constructif en fait. C'est qu'au bout de 2 ans, je regardais derrière moi, je me disais mais en fait j'ai fait quoi pendant 2 ans? J'ai fait plein d'images, puis j'ai rien dans les mains quoi. Ouais. Et donc du coup j'ai demandé une bourse au CNL. Ça devait être en 2012. Ouais, c'est ça, 2012 je pense. J'ai demandé une bourse au CNL pour faire un projet et ça a été du coup j'ai eu suffisamment d'argent pour arrêter les commandes pendant plusieurs mois et ça a été une vraie bouffée d'oxygène et j'ai pu me remettre à faire un livre. Donc ce livre c'est L'art d'être champion du monde, c'est un livre sur le sport. J'ai dessiné des sportifs en fait dans des positions un peu absurdes. Et là, en fait, je me suis éclatée, quoi. Je me suis dit, ça y est, je peux me remettre dans ces projets-là. Et en fait, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Et donc, depuis, je me bats un peu pour ça, quoi. C'est-à-dire que je fais des commandes, finalement, pour me libérer du temps, pour faire mes projets. C'est un peu dans cette dynamique-là que je vois les choses.
C'est tellement commun. Et c'est aussi quelque chose que je découvre de plus en plus sur la mesure du temps. Les commandes, etc. À un moment donné, tu as juste envie de développer ta voix, t'inscrire sur la durée, comme c'est un peu ce que tu disais.
Ouais.
Et au final, les commandes sont là pour mettre du pain sur la table et te permettre de faire tes trucs à côté, quoi.
C'est ça. Et puis, il y a aussi quelque chose dans la commande où je trouve qu'il y a un défi, c'est celui d'arriver à être soi, en fait, dans une commande. Mais c'est pas toujours facile de le relever parce qu'en fait, on est malgré tout orienté par le sujet qu'on nous donne, orienté par les demandes en fait des commanditaires. Et donc du coup en fait je trouve que c'est quelque chose qui peut dénaturer aussi notre dessin quoi.
Ouais. Est-ce que tu dirais du coup que parce que milieu de l'édition c'est assez connu, enfin du moins c'est ce que j'entends, c'est que ça paye pas très bien et donc du coup j'ai souvent l'impression que on fait de la pub et de la com pour payer nos factures. C'est quoi ton regard sur cet aspect financier de l'édition?
Tu veux dire, est-ce que je trouve ça juste qu'on soit mal payé pour faire nos livres? Non, bien sûr.
Non, c'était une évidence, mais parce que tu as fait 20 livres, c'est une production énorme et
ouais,
c'est super fort en sachant que l'édition, ça paye pas des masses, donc ça veut dire que tu avais un équilibre, une organisation incroyable pour y arriver quoi.
Ouais, c'est vrai que avant que je sois représentée par l'agence aussi, il y a c'est qu'il y a aussi à un moment donné je suis rentrée dans l'agence Patricia Lucas, ce qui m'a permis d'avoir des projets qui étaient beaucoup plus payants. Mais en fait, y a quand même des années où je faisais de l'édition pour vivre, même si c'était mal payé. Donc ça veut dire faire un livre... Donc là, je parle des livres de commande, hein, je parle pas de mes livres d'auteur. Ça veut dire faire un livre en un mois et demi, quoi. Et ça, bah, c'est sûr que c'est pas très confortable. Mais en même temps, ça a été formateur, hein. Ça a été formateur de devoir dessiner vite, de devoir envoyer des fois 40 images en un mois. C'est aussi des moments où on se dit, bah, en fait, il faut pas trop se poser de questions et puis dessiner, quoi. Dessiner, y aller. Ouais. Et en même temps, c'est vrai que quand je regarde derrière moi et que je vois des livres que j'ai faits, je le vois que je les ai faits trop vite. Je vois que je les ai faits trop vite, que j'ai pas pris assez le temps de prendre du recul sur mes images. Et pour le coup, là, c'est dommage parce que ça reste les livres. Mais en même temps, j'essaye de pas trop avoir de regrets par rapport à ça parce que voilà, c'est comme ça, c'est publié. À ce moment-là, dans la fabrication d'une image, il y a quand même plein de données qui rentrent en compte. Il y a l'énergie qu'on y met, il y a le désir, il y a le temps qu'on a pour le faire. Et ça compte en fait. Alors ça compte pas forcément dans le regard des gens qui sont pas dans le l'image, il le voit pas, hein, c'est sûr, le lecteur lambda le voit pas. Mais après, nous, quand on le regarde,
c'est une photographie à un instant T, quoi. Et puis, tu peux voir le chemin parcouru en regardant en arrière, quoi.
Oui, c'est ça. Mais aujourd'hui, j'ai plus envie de faire de l'édition pour l'argent, quoi. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaye de. Si je fais un livre ou si on me propose un livre, c'est vraiment parce que j'ai envie de le faire. Et j'essaye de faire en sorte que chaque livre soit des briques, en fait, de quelque chose que je construis sur le long terme. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, je disais oui à tout. Et pour revenir un peu à la position aussi d'être parent et en même temps d'être illustrateur, illustratrice.
Ouais, bien sûr.
C'est qu'en fait, clairement, prendre des livres de commande qui m'intéressent moyennement, maintenant, c'est non. C'est évident. J'ai beaucoup plus de facilité à dire non. Même si je suis grillée, c'est pas grave, en fait. Tant pis, quoi.
Ben, j'imagine que devenir parent, ça rajoute aussi un sens supplémentaire et t'as appris à mieux te connaître et donc, du coup, à savoir ce qui te convient. T'as fait tes gammes, quoi. Tu t'as donné, tu sais ce que tu... Enfin...
Oui, il y a un côté comme ça, même si je me sens vraiment au tout début du chemin. Puis c'est, encore une fois, c'est mouvant, c'est vivant. Enfin, tout ça, c'est ce que je te dis aujourd'hui. Ça se trouve, dans 2-3 ans, ce sera différent. Là, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir quand même faire un petit peu ce que je veux. Mais ça fait très peu de temps. Et puis, je sais que tout ça, c'est très fragile, quoi. C'est très fragile. Enfin, voilà, aujourd'hui, je vis correctement de mon travail, mais la position des artistes, elle est hyper fluctuante.
Ouais.
On sait très bien. En plus, là, avec ce qui se passe en ce moment, on sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. Donc ça se peut très bien que je refasse des livres de commandes qui m'intéressent pas dans 2 ans.
Ouais, moi je te le souhaite pas.
Ouais, moi non plus, j'espère pas, mais voilà, il y a absolument rien d'acquis et c'est ça qui est super dans notre métier aussi.
Ouais, c'est sûr, on apprend toujours. Du coup, on peut en venir justement à cette organisation vie de maman, vie professionnelle. C'est un sujet, je crois, qui intéresse beaucoup. Toi, ça fait 14 ans que tu bosses dans ce milieu. Du coup, comment tu t'organises concrètement au jour le jour?
Au jour le jour, alors on va parler de ma vie d'avant Astrid, parce que pour l'instant, vu que ça fait que 2 mois que je suis maman niveau 2, pour l'instant, avec les 2 enfants, c'était juste un congé mat et puis de temps en temps un dessin. Mais quand il y avait Carmen, je le pose à la crèche à 9h, je commence ma journée de travail vers 9h30, 10h, et puis elle se termine à 5h30. Donc c'est court, et donc j'essaye d'être super efficace. Moi, je travaille en atelier, donc à l'extérieur de chez moi. Et en fait, c'est assez salvateur, en fait, de pas être à la maison, pour le coup. Je pense que si j'étais à la maison, j'aurais beaucoup plus de mal à travailler. Mais du coup, j'arrive à mon atelier, je me mets dans mes projets, je travaille jusqu'à 13h et je me remets à 14h à travailler jusqu'à 17h. Et après, c'est la troisième demi-journée qui est celle d'aller chercher Armand à la crèche et puis de vivre tout ce que vivent les parents, en fait, entre 18 et 21h, quoi. Mais en fait, ce qui est un peu plus, ce qui a ce qui a pas mal changé aussi, c'est les salons et les rencontres. En fait, avant, j'allais beaucoup en salon, je faisais beaucoup de rencontres scolaires, donc beaucoup de déplacements partout en France. Et en fait, là, j'en fais beaucoup moins parce qu'en fait, l'équilibre familial à trois, il est là, mais il est aussi un peu fragile. Et en fait, quand il y a un des deux parents qui s'absente pendant 5 jours, ça met l'autre dans une position un peu pas sympa. Et donc, ouais. Du coup, on le fait moins. Enfin, aussi bien moi que Mathis, on va beaucoup moins en salon et en rencontre pendant qu'ils sont petits, en fait, pendant que les enfants sont petits, parce qu'en fait, on a envie d'être en famille les week-ends.
Ben oui, ouais.
Ça, on a envie de les voir, quoi.
Moi, j'ai ressenti la même chose quand je suis devenu papa. Avant qu'ils naissent, je sentais en moi grandir ce besoin de m'occuper de ma tribu.
Ouais, c'est ça. Il y a vraiment quelque chose à construire, en fait, ces moments-là de confinement. En fait, c'est un peu des moments de confinement,
ouais,
quand même.
Ouais.
Ils sont nécessaires aussi, finalement, pour trouver un rythme. Et puis, en fait, quand je suis avec mon mec et puis mes enfants, j'ai pas l'impression de passer à côté de quelque chose, quoi. Je suis pas, c'est pas un sacrifice, en fait, de pas aller en salon, de pas faire beaucoup de déplacements. Enfin, je sais que ça reviendra et que c'était ma vie d'avant, ce sera aussi certainement ma vie d'après, enfin peut-être, mais voilà, je le vis pas comme un sacrifice, quoi. Après, c'est aussi parce que je les ai eus tard, les enfants, et que du coup, j'en ai bien profité avant, et je suis contente d'avoir eu aussi des enfants quand mon travail il était un petit peu installé. C'est-à-dire, clairement, j'étais pas prête, il y a 6 ou 7 ans, à mettre de côté mon travail pour avoir des enfants. C'était sûr, quoi. Puis mon mec non plus, je pense pas. Je pense que c'est arrivé aussi à un moment donné où j'étais suffisamment confiante pour savoir que je pouvais faire une pause et m'y remettre après. Parce qu'il y a 6 ou 7 ans, j'aurais eu vraiment peur, quoi, de décrocher, de pas réussir à m'y remettre, de voir que la terre continue de tourner, même si je publie plus rien, ça m'aurait tétanisé, en fait. Là, je le vis beaucoup plus sereinement. Ça permet aussi de remettre les choses à leur, à une autre place, quoi, de remettre le travail aussi, parce que pendant très longtemps, moi, le travail était au premier plan, avant tout, et maintenant, c'est vrai que c'est plus, c'est la famille, quoi. Ça fait un peu, c'est famille, travail.
Oui, c'est un tout, quoi.
Ouais. Mais
t'as ressenti un déclic. Maintenant, c'est bon. Je suis prête à me lancer dans l'aventure de la maternité. Tu me parlais d'avoir plus confiance en toi, mais est-ce qu'il y a eu autre chose qui...
Ah bah oui, clairement, il y a eu la rencontre avec le papa.
Tiens donc, ouais, bien sûr, on va en parler.
Non, mais c'est vrai que c'est super important parce que, en fait, d'être avec un artiste, enfin quelqu'un qui fait le même travail que moi, ça a été hyper rassurant. C'est-à-dire que je sais que c'est quelqu'un qui comprend ça et qui sait que, voilà, qui sait ce que c'est que d'avoir un travail qui est aussi, ce que c'est qu'être passionné et d'avoir un travail qui nourrit, quoi. C'est-à-dire que moi, en même temps, je dis que le travail est passé au second plan, mais si je travaille pas, je suis pas bien, quoi. Je suis malheureuse et j'ai pas d'énergie et j'ai besoin de bosser, en fait. J'ai vraiment besoin de bosser pour avoir un bon équilibre dans ma tête. Et lui, il est pareil. Et en fait, ça, c'est vrai que c'est des traits de caractère qu'on retrouve beaucoup chez les gens qui vivent d'une activité de création, quoi. Parce que ça nourrit. Et en fait, de savoir que lui, il pouvait comprendre ça et qu'on serait dans la même galère tous les deux, dans le même bateau, ça a été révélateur. Ouais. Je me suis dit, c'est bon, avec lui, je peux faire ça.
Ouais.
Avec d'autres, j'aurais dû toujours me justifier. Bah, c'est ce que j'ai vécu aussi en étant avec des personnes qui n'étaient pas forcément qui avaient des métiers où, en fait, quand ils rentraient à la maison, ils fermaient la porte et c'était fini. En fait, c'est quelque chose qu'on doit toujours défendre, quoi. C'est quelque chose qui n'est pas forcément compris par tous, le fait que le travail rentre à la maison tout le temps, même si je travaille à l'extérieur, en fait, je suis tout le temps plus ou moins en train de bosser. Si je suis à fond dans un projet, le soir, je vais être lunaire. Je vais pas réussir à tenir une conversation correctement, je serai pas là, quoi, parce que je serai encore dans mon travail. Et donc ça, c'est bien de partager sa vie avec quelqu'un qui le comprend. Ça évite bien des conflits.
Ah oui, je veux bien le croire, c'est sûr. Ok. Et donc, du coup, tu deviens maman et tu te lances dans la création de ton livre « Une maman, c'est comme une maison ». Et voilà, est-ce que tu pourrais m'en parler un tout petit peu?
Ben, en fait, quand Armand est né, ça m'a complètement transformée. Non, mais j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes quand je dis ça, mais c'est horrible. Parce que c'est d'une platitude et en même temps, c'est tellement fort.
Mais oui, c'est clair.
Mais c'est vrai que ça m'a complètement chamboulée, quoi, de devenir maman. Ça a été l'expérience la plus forte de toute ma vie. Et en fait, je me suis dit que, enfin, c'était impossible de, que ça ne transpire pas sur mon travail. Et en fait, quand Armand est né, dès les premiers jours, en fait, j'avais ce sentiment de me dire, mais en fait, il est pas à moi, quoi. Il est pas à moi. J'ai envie de le, c'est le petit être que j'aime le plus au monde, tout de suite, alors qu'il te donne absolument rien. Il est là, il est juste là, mais en fait, d'un coup, on découvre ce que c'est qu'un amour inconditionnel. Et ce sentiment de, un jour, il va partir, était très, très fort. Il était très fort dès le début. Je l'explique pas, hein. Je me revois penser, mais il est là et c'est super, mais en fait, à partir de maintenant, notre vie ne sera plus qu'une lente séparation et un jour, il va partir. Et c'est beau, hein, cette idée, mais en même temps, c'est super triste. C'était super triste. Et en fait, je pense que c'est ça qui a dessiné la fin de ce livre. Mais avant, enfin, parallèlement à ça, il y a eu aussi toutes ces nouvelles situations qu'on vit quand on devient parent qui sont un peu absurdes. Par exemple, le premier dessin que j'ai fait d'une maman, c'est comme une maison. Une maman, c'est comme une fontaine. C'est la mère qui est à table en train de donner le sein à son bébé et le papa qui donne à manger à la maman. Et ça, c'est clairement des choses qu'on vivait quasiment tous les soirs. Et puis pareil, les scènes de sieste collective, de moments à trois comme ça, c'est des choses qu'on vit tout en sachant que c'est des moments qui sont hyper fugaces. Et donc le dessin permettait ça, de les immortaliser, quoi, de les garder, de garder trace. Et en fait, j'ai commencé un peu à dessiner des scènes comme ça. Et puis le texte, par contre, il est venu un peu plus tôt, je pense. Les comparaisons de une maman, c'est venu un peu pendant ma grossesse, je crois. Une maman, c'est comme une maison, bah, clairement, c'était ça.
Ah oui.
Une maman, c'est comme une piscine, une maman, c'était comme un véhicule. À la fin, je me sentais vraiment comme ça, quoi. J'étais juste un énorme ventre avec des jambes. Mais voilà, ça s'est construit un peu de manière naturelle, comme ça, en notant des phrases et puis en dessinant des scènes de notre quotidien. Et puis le fond, c'est vraiment une envie d'arrêter le temps et puis d'inscrire tout ça dans un livre et que ça reste comme ça, en fait. Ça c'est le côté dramatique de cette envie-là.
Ouais. Et le côté moins dramatique, du coup?
Le côté moins dramatique et le côté super jovial, c'est que c'est un cadeau, en fait, pour Armand. Quand il l'a découvert, le livre, c'était super parce qu'il reconnaissait ses jouets, il reconnaissait notre maison, il reconnaissait sa mère, son père, son doudou. Alors au début, il était très dubitatif, quoi. Qu'est-ce qu'il fait mon doudou dans ce livre? Et parce que quand il est sorti le livre, Armand il avait 18 mois, quoi. Il était pile poil la cible, en fait. Mais il s'est reconnu plus dans la fin du livre que dans le tout début où il était un tout petit bébé. Et donc ça, c'est vraiment chouette. Puis c'est un livre qui m'a aussi permis de faire plein de choses parce que très vite j'ai eu pas mal de rencontres en librairie et puis de mamans aussi qui m'ont dit qu'ils se reconnaissaient beaucoup dans ce livre-là. Donc ça, c'était vraiment chouette de voir que j'ai eu l'impression de faire un livre assez personnel, c'est-à-dire que c'est moi, c'est autobiographique, c'est mon mec, c'est mon chat, c'est notre enfant, et en même temps, il y a beaucoup de mamans qui m'ont dit qu'elles se reconnaissaient dans ce livre-là. Donc c'est aussi universel un petit peu, donc ça c'est cool, quoi, de voir que ça parle à d'autres.
Ouais. Bon, c'est une expérience forte. T'as sorti tes tripes sur le papier et puis au final c'est partagé par tellement de gens, quoi.
C'est ça, c'est le paradoxe, en fait, de la parentalité, c'est qu'on a l'impression de vivre un truc unique et c'est la chose la plus banale du monde. C'est un peu ça, quoi. Mais je suis en train d'en faire un deuxième sur la.
Ah. Ouais. Une maman, c'est comme un hôtel.
Non, ça s'appelle un hôtel, ouais, c'est ça. C'est comme un T3. Non, ça s'appelle bébé ventre pour l'instant. Peut-être que ça va changer, mais c'est sur la deuxième.
D'accord.
Enfin, sur ma grossesse, en fait. C'est plus sur l'expérience qu'on a vécue à trois, donc un couple plus un enfant de 3 ans, en fait, dans l'attente d'un deuxième enfant.
Ouais.
Donc bébé ventre, c'était comme ça qu'Armand appelait Astrid quand elle était dans mon ventre. Quand on savait pas que c'était une fille ou quoi, il disait c'est bébé ventre. Et donc là, c'est un peu le même principe, sauf que le texte est peut-être plus assumé. C'est-à-dire que, en fait, pendant très longtemps, je crois que j'ai pas du tout, J'ai pas du tout pensé que j'étais capable d'écrire un texte, en fait. Et c'est le cas, je crois que je suis pas capable d'écrire un texte seul. Je suis pas capable d'écrire un texte qui se tient une aventure ou quoi que ce soit, je suis pas là-dedans. Et donc du coup, pendant très longtemps, je me suis un peu cachée derrière des formes très fortes, des détournements de style, quoi, un peu comme par exemple maman c'est comme une maison, voilà, c'est une ritournelle, que c'est une variation sur une ritournelle. L'art d'être champion du monde, c'est un peu des faux conseils, c'est un détournement du manuel de développement personnel. Et là, en fait, je crois que c'est un texte où il n'y a pas de, il y a rien de déguisé, en fait. Je sais pas, c'est pas très clair, hein, ce que je dis. Bah, c'est un vrai texte. C'est un.
Il y a pas. C'est direct, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est juste une histoire. C'est juste une histoire avec des phrases. Il y a pas de rime. Il y a pas de. Voilà. C'est simple, en fait. C'est quelques petites. C'est quelques phrases en vis-à-vis d'une image. Alors, c'est toujours quand même beaucoup les images qui me guident pour pouvoir écrire. Mais c'est pas des dialogues, c'est pas sous une forme en fait forte que je décline sur toutes les pages. Parce que jusqu'à présent, ça a beaucoup été ça, mes livres, c'était la ménagerie, c'était des dialogues, tout le temps des dialogues. L'art d'être champion du monde, c'était tout le temps des conseils. Tous les autres projets où c'était tout le temps des questions. Cheval de course, c'était des jeux de mots. Enfin, à chaque fois, c'était un exercice de style. Et là, c'est pas le cas.
Et qu'est-ce qui t'a poussé à délaisser la figure de style pour quelque chose d'un peu immédiat et assumé?
Je crois que je commence un peu à accepter de plus me cacher. Enfin, c'est un peu voilà. Ouais. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, quoi. J'ai un peu moins peur, peut-être. J'ai un peu moins peur parce qu'en fait, en détournant quelque chose, c'est une manière d'emprunter une voie. J'emprunte une voie, alors que là, je crois que c'est c'est un peu plus ma voix, peut-être. Mais ça, c'est dur, hein. C'est très dur, je trouve, d'écrire. Je trouve ça hyper difficile, en fait. C'est aussi parce que moi, je suis avant tout dessinatrice, je crois. C'est plus les images qui me guident et le texte qui vient dans un second temps. Là, avec le fait d'être sur des livres un peu plus autobiographiques, ce que je trouve plus simple, c'est que je sais à peu près ce que je vais raconter. Alors que quand on invente complètement une fiction, c'est plus dur, quoi, de savoir ce qu'on va dire. En fait, je trouve ça difficile.
T'as un plus grand sentiment d'accomplissement avec l'aspect peut-être autobiographique. Tu parlais au tout début de l'interview de t'inscrire dans le temps à travers l'édition, les livres, etc. Mais là, non seulement ça reste physiquement dans le temps, mais c'est ta propre histoire, quoi.
Ouais, je pensais pas du tout que je ferais ça un jour. Je trouve ça super mégalo, en fait. C'est vachement mégalo. Je vais raconter ma vie. Mais puis en même temps, je trouve ça plus simple. Ça me vient comme ça, en fait. Ça me vient comme ça. Je trouve ça plus simple, plus immédiat. Par contre, je me permets d'inventer, quoi. Alors pas trop dans Une maman, c'est comme une maison, mais dans le deuxième, là, dans Bébé ventre, il y a des scènes que j'invente qu'on n'a pas vécues. Notamment la scène à la naissance, quoi, parce que la naissance, en fait, vu que Astrid elle est née en plein confinement, Armand a pas pu venir à la maternité, alors que pendant des mois on lui a parlé de la maternité, quoi.
Oh là 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 là.
On lui a dit le bébé il va sortir à la maternité, tu viendras le voir, tout ça, puis il a pas pu vivre ça, quoi. Donc le dessin là, le livre, il me permet aussi un peu de réparer ça, c'est chouette de le faire exister, quoi. Et donc ouais, pour revenir à cette histoire d'autobiographie, je pensais pas du tout que j'allais faire ça. Mais après, je suis pas sûre de le voir complètement comme de l'autobiographie. C'est-à-dire que ça peut évoluer. Je m'autorise complètement à évoluer vers quelque chose qui n'est plus autobiographique et que les personnages m'échappent complètement et qu'ils deviennent complètement autre chose que ce qu'on vit à la maison.
Oui. Oui, c'est fluide, c'est libre.
Ouais, j'ai le droit. Il n'y a pas de ministère de l'autobiographie qui va me tomber dessus si je le fais pas.
Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ah, mais je trouve ça super intéressant, tout ce que tu me racontes, le parcours et tout. On voit vraiment, au fur et à mesure, voilà, cette confiance qui grandit, le fait de s'assumer. Et je vois là, voilà, que quelque part, il y a ce besoin de ce désir de simplifier la vie et de plus s'assumer, quoi.
Bah ouais, c'est sûr. Il y a vraiment ça. Et il y a aussi, je trouve, dans le fait de devenir parent, c'est pas tant dans le fait de devenir parent, c'est dans le fait de voir ses enfants grandir, une notion de temps qui est complètement différente. C'est-à-dire que les années elles passent et elles passent super vite. Et en fait, quand Armand est né, je me suis dit je vais faire des livres pour les bébés, j'ai envie de faire des livres en noir et blanc sur l'éveil. Et en fait, le temps qu'on le fasse, bah c'est déjà notre enfant, il est déjà plus la cible en fait, parce qu'il a déjà grandi. Et il y a un décalage entre le rythme auquel on peut produire et le rythme auquel les enfants et enfin auquel l'enfant grandit quoi. Et en fait là, c'est vrai que de voir un bébé grandir, ça m'a vraiment donné envie de faire des choses pour les tout petits. Et peut-être que, en fait, au fur et à mesure qu'ils vont grandir, ça va m'amener à faire des choses pour les plus grands. Je sais pas du tout, quoi. Mais en fait, il y a quelque chose qui s'est révélé dans le fait de vraiment me pencher sur le livre de la petite enfance. Petite enfance, livre objet. Là, je vais faire un pop-up qui sort en septembre. C'est vraiment pour les tout petits. Et en fait, il y a quelque chose de moins narratif aussi dans le livre pour les tout petits que je trouve super intéressant. Mais attends, je crois que j'ai pas du tout répondu à ta question en fait.
Non, quelque part, ça veut... tu creuses un sillon au niveau de la maternité quoi, carrément.
Ouais, bah c'est le fait qui m'inspire, c'est le fait que les enfants que de voir ce dont ils ont besoin, de voir aussi quel livre je cherche pour eux, de me dire bah en fait je peux les faire. À chaque fois ça me donne une idée en fait quand je vois en fait sur chaque étape de la vie on peut de leur évolution on peut faire un livre quoi. Sur le fait d'apprendre à voir, apprendre à toucher, apprendre à goûter, tout ça c'est tellement riche en fait que ça donne envie de voir comment on peut traduire tout ça dans des livres. Mais pour revenir à ce que je disais au début, c'est qu'en fait, le temps qu'on le fasse, ils sont déjà passés à autre chose, quoi. Donc, donc c'est abyssal, en fait, tout ce qu'on peut faire pour eux, quoi. Enfin, pour eux et avec eux.
Totalement, ouais. Alors, ce podcast, il est soutenu par des Patreons. Je leur donne la possibilité de poser des questions en amont pour les personnes que je vais interviewer.
Ah bon ?
Ouais. Et il y a une personne qui a posé une question. Elle me disait, c'est un peu une métaphore, mais un livre, c'est un peu, c'est comme un accouchement, quoi. Et elle aurait voulu savoir quelle était un peu la part de joie et de pénible dans la création d'un livre.
Alors, moi, personnellement, j'ai une extrême excitation quand j'ai l'idée du livre. Au moment où je me dis je vais faire un livre là-dessus, il est parfait à ce moment-là dans ma tête et je me dis mais c'est génial Aurore petite, tu es absolument géniale. Tu as des idées exceptionnelles. Et là c'est super, c'est un grand moment de joie, je dirais, et d'autosuffisance. et ensuite vient le moment où je commence à faire mon chemin de fer, à noter des idées, et là tout s'effondre. Cette cathédrale qui était magnifique, en fait, elle devient une montagne de problèmes à résoudre. Et il y a un moment où je suis complètement perdue, où je sais même plus comment je dois dessiner en fait. Je sais plus ce que j'aime, je sais plus ce que je dois faire, je sais plus. Gros doute, ouais. Et donc ce moment-là, c'est de la souffrance. C'est ce moment-là où je rentre à la maison et que je peux plus parler, que je suis complètement enfermée dans ma tête et que j'arrive plus à tenir une conversation. Et en fait, ce moment-là, je pensais qu'au fil des années, il allait s'estomper, et en fait, non. Et donc, du coup, je dirais que ça, c'est le moment le plus douloureux. Et après, dans le fait de faire les images, quand le livre est calé, c'est-à-dire au moment des crayonnés, quand tout a été validé par l'éditeur, le nombre de pages, le format, tout ça, là, il y a un moment où en fait, il y a... Je pense une sensation d'accomplissement quand même, parce qu'il n'y a plus grand-chose à inventer au niveau du fond. Mais il y a tout un travail sur la forme, en fait, qui devient passionnant, quoi. Ça va être plus affiner les cadrages, choisir quel outil, choisir les couleurs. Et là, c'est pareil. J'ai souvent un moment où je dois tout réinterroger, quoi. C'est-à-dire que il y a plein de fois où je me dis, tiens, je vais faire un livre au crayon de couleur, je vais faire un livre au pinceau, et j'essaye. Et en fait, je finis par éliminer tous les outils pour retrouver la plume et rechoisir la plume. Et en fait, ce chemin-là, je l'ai fait plein de fois. Et à chaque fois, je me dis, mais la prochaine fois, ça sert à rien d'essayer. En fait, tu vas directement prendre ta plume et tu commences à dessiner. Et en fait, non, je crois que j'ai besoin de repasser par toutes ces étapes-là d'élimination et de rechoisir mon outil. Et en fait, ça, c'est ce chemin-là, pareil, il est un petit peu, il est parsemé de doutes. Et puis du coup il est un petit peu douloureux, mais voilà, tout ça c'est un peu cyclique, quoi, c'est des up and down tout le temps. Et puis après je pense que le moment où ça on partage tout ça, quoi, le moment où on envoie nos fichiers et que c'est fini, il y a un grand moment de, en fait, non, je vais tout recommencer. c'est pas du tout ça que je devais faire. Et normalement, là, le rôle de, enfin, Valérie Cussaguet, donc mon éditrice, elle remplit bien son rôle de me dire, écoute, Aurore, maintenant, ça suffit, tu ravales tes doutes, et puis, ton livre, il est comme ça.
C'est super.
Ouais. Et il va être comme ça. Voilà. Et puis après, il y a ce moment, là, où on reçoit notre livre, et qui est fini.
Ah ouais. Ah, ça doit être trop beau, quoi.
Bah, ça dépend du livre. C'est ça. Mais ça dépend en fait beaucoup du degré d'investissement, du rapport entre le livre et l'investissement qu'on est mis. C'est-à-dire qu'il y a des livres en fait où je me suis pas beaucoup investie, où je les ai fait. Là, je parle plutôt des livres de commande, où en fait je les ai fait un peu en me disant je me prends pas la tête, je fais des dessins comme ça, j'essaye de pas écouter le doute en fait et d'avancer coûte que coûte. Et quand je les reçois, je suis agréablement surprise parce que c'était des livres que je considérais comme pas très importants. Et en fait, quand je les vois, je me dis mais en fait c'est mieux que ce que j'imaginais, parce qu'il y a une belle fab, parce que l'éditeur a super bien fait son travail, parce qu'en fait il y a une belle maquette et que finalement c'est un chouette objet. Et au contraire, il y a des livres où en fait je me suis beaucoup investie, et en fait quand je les reçois, je me dis il est plus petit que ce que j'imaginais, il est moins épais que ce que j'imaginais, parce qu'en fait le travail il est supérieur à l'objet final. Je sais pas si ça se comprend là ce que je dis.
Si, totalement. Moi j'ai fait 4 livres de commande, et sur les 4, il y en a vraiment un dont j'étais fier. C'est vrai qu'il y a toujours cet instant de surprise.
Ah bah oui, il y a ce moment en fait où on doit accepter qu'il est comme ça. Ça peut-être que c'est peut-être un rapport avec justement la naissance, quoi. J'imagine. Enfin, moi, j'ai pas ressenti ça. Il y a beaucoup de parents qui disent qu'en fait leur enfant il est pas ce qu'ils attendaient. Et il y a peut-être ce chemin-là aussi à faire avec un livre. Quoi.
Ouais. Après, j'imagine qu'en effet, c'est différent quand c'est un projet de commande. Et enfin, je veux dire, j'ai de plus en plus envie de questionner des auteurs comme toi, de comprendre cette démarche. Et je pense que mes auditeurs, c'est aussi quelque chose qui les intéresse, quoi.
Moi, par rapport au fait d'être auteur, disons que j'ai toujours eu un très grand complexe par rapport à ça, quoi. C'est-à-dire que je me sens pas. Quand j'étais à l'école aux Arts Déco, alors à l'époque où j'y étais, moi, c'était très orienté illustration narrative. D'ailleurs, ça s'appelait comme ça la section. Ça s'appelait illustration narrative. Donc, c'était très orienté projet d'écriture, scénario, et c'était l'histoire avant tout, avant les images. Et en fait, moi, j'ai toujours eu un complexe par rapport à ça parce que je sais pas écrire des histoires, en fait. Et je trouvais toujours une pirouette pour ne pas raconter d'histoire. Donc je faisais des systèmes, finalement c'était des mécaniques en fait. J'exploitais plus des mécaniques d'images, des mécaniques visuelles qui au final racontaient une histoire et au final soulevaient un thème ou quelque chose de cet ordre-là, plus que vraiment une histoire avec un travail d'auteur derrière qui sait exactement ce qui veut dire, quoi. Moi je me sens pas en fait de cette famille là, quoi, de cette famille des auteurs qui savent exactement ce qu'ils veulent raconter. Des fois j'ai l'impression de pas vraiment choisir ce que je veux dire, quoi. Enfin, à part pour une maman, c'est comme une maison, mais
est-ce que ça existe d'auteurs qui savent exactement ce qu'ils ont envie de raconter?
Bah, quand des
le doute ne fait pas partie.
Ah oui, si, c'est sûr, le doute fait partie, mais je sais pas.
Oui,
je...
toi, c'est né avec cette maternité qui t'a transcendé au final.
Ah, c'est beau, ouais.
Non, mais c'est ce que j'entends, du moins.
Bah, disons que avant, j'avais fait des projets d'auteur, mais c'était beaucoup autour du jeu. C'est-à-dire que je m'amusais en fait à mettre en place. Je dessinais sur un thème, par exemple, si je prends l'art d'être champion du monde, je décidais de dessiner sur le thème du sport, à inventer des images, et finalement, je me rends compte que ce qui m'amuse le plus, c'est de faire ce type d'image, et je développe ça, et après, j'écris un texte à partir de mes images. Et finalement, je l'écris dans un ton qui m'est propre, et donc dans ce sens-là, c'est un travail d'auteur, quand
même.
Bien
sûr.
Mais c'est différent de puiser en fait une histoire dans son propre vécu.
Ah oui, totalement.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça a été évident que quand j'ai été maman, il fallait que je fasse quelque chose autour de ça parce que c'était tellement fort que je voulais l'investir dans mon travail. et que je pouvais pas faire autrement, mais en fait je suis pas sûre que ça se décide que ça se décide consciemment, en tout cas.
Ouais, oui, c'est plus fort que toi, en fait. Ça se réveille. C'est pas forcément une décision, ça se fait à toi, quoi, quelque part.
Ouais, je pense. Quelque chose de ce genre-là, c'est un peu... je sais pas, je...
ouais. Super. Non, mais il y a beaucoup de choses comme ça. Enfin, bref, c'est abstrait, mais c'est quelque chose que je remarque. Moi, je sais que je vais vouloir aller trop vite ou à vouloir forcer les choses. Et en fait, je me rends compte que c'est quand tu lâches prise, quand tu...
Ben c'est vrai qu'il y a plein de fois aussi où on se rend compte que quand on veut faire une belle image, on n'y arrive pas.
Non.
C'est aussi quand ça arrive un peu malgré soi, quand on lâche prise, et ça vient aussi quand on n'y pense pas, quoi. Ça vient parfois quand on baisse la garde, quoi.
C'est ça.
Et je pense qu'il faut pas chercher à faire œuvre. c'est ça le...
Mais j'ai ça aussi avec mon fils. Quelque part, j'ai l'impression de l'accompagner sur son voyage, quoi. Au final, je suis spectateur. Je suis là pour, je suis présent avec lui. Mais au fur et à mesure du temps, je me dis, mais en fait, c'est comme tu disais au tout début. Au final, l'enfant ne t'appartient pas. C'est la fin de ton livre.
C'est
ça. Il s'en va. Ils sont tout petits et on dit déjà ça.
Bah oui. Mais c'est ça. C'est notre but, hein. C'est notre rôle, en tout cas, en tant que parents, c'est de faire en sorte qu'ils puissent partir et qu'ils aient plus besoin de nous, quoi. C'est ça. Mais
ouais.
Mais ouais, juste par rapport au dessin, et par rapport au fait d'arriver à faire des choses en s'abandonnant et ne pas chercher à avoir le contrôle. En fait, ça, c'est quelque chose que j'observe aussi beaucoup chez les enfants, justement. Quand on voit les tout petits, comme ils dessinent, l'énergie qu'ils ont pour dessiner, cette énergie, elle se cristallise, en fait, vers 8 ans, quoi. Vers 7-8 ans, ils commencent à vouloir bien dessiner. Et en fait, c'est à ce moment-là que souvent ils perdent plein de choses. Et je pense que cette chose-là, en fait, nous, en tant qu'illustrateurs, moi, personnellement, c'est quelque chose que j'essaye de retrouver, quoi. Le fait de me dire, dans le dessin, que des fois, je dois essayer de retrouver l'énergie de celle qui cherche pas à bien dessiner.
C'est ça. Oh là là. Mais ça, c'est l'histoire de ma vie. Vouloir bien faire à tout prix, et au final, tu fais pire que mieux.
Bah c'est ouais. C'est les dessins qui sentent la sueur, quoi, c'est ça. Je trouve qu'il y a rien de pire qu'un dessin un dessin ou un livre où on sent le labeur, quoi.
Ouais, ouais.
Je pense que c'est un peu notre c'est un défi, quoi, essayer de faire en sorte. Il y a du travail, c'est clair qu'il y a du travail tout le temps, mais c'est un peu le défi, c'est que
au final c'est travailler à retrouver une certaine innocence, une certaine un jeu, quoi. Je sais que
un jeu, c'est ça.
Don't forget to play.
Bah ouais, c'est ça. Et ça, j'ai l'impression de l'avoir souvent expérimenté, cette chose de dire, bah voilà, ça y est, j'ai l'impression de savoir qui je suis, de savoir comment je dessine, comment j'écris. Et en fait, à ce moment-là, ben, ça devient mauvais. Parce qu'en fait, il faut, j'ai l'impression que je fais des choses plus fraîches quand je cherche les règles, en fait. quand je suis en train de m'amuser justement à trouver.
Ouais, se renouveler. Mais écoute, on arrive un tout petit peu à la fin de notre petit moment. Il y avait peut-être une ou deux ressources pour des choses qui t'ont inspiré ou par rapport à ce sujet de la parentalité, des choses qui t'ont inspiré sur ton chemin.
Bah oui, plein de choses. Comment choisir? Bah, déjà, je peux peut-être parler un peu des livres que j'ai lus à mon fils qui m'ont beaucoup ému, comme par exemple les livres de Pauline Martin et d'Astrid Desbordes. Tu dois connaître Mon amour, Un amour de petite sœur, tout ça. Ça, c'est des livres, en fait, souvent le lien a été fait aussi entre mon livre et le leur.
Ah, d'accord.
C'est un livre que je trouve très touchant et très juste. Il y a aussi ce livre-là de Vincent Cuvelier et Charles Dutertre qui s'appelle La deuxième fois où je suis née. Et c'est ça aussi, c'est sur le fait de renaître quand on devient parent, c'est un peu ça aussi que j'ai ressenti. Après, dans mes doutes sur la parentalité en général, c'est-à-dire comment être maman, être maman pré-correcte, je sais pas, je pense que la ressource, elle est aussi dans le papa, quoi. Et dans le fait de pas être seul, en fait, d'être deux et d'avoir toujours quelqu'un qui veille au grain, quoi. Mais mutuellement, en fait. Et mutuellement, je veille à ce qu'il soit un bon papa et il veille à ce que je sois une bonne maman. On n'est pas toujours le cas, mais c'est pas toujours le cas. Mais...
Oui, c'est une ressource à ne pas négliger, c'est sûr.
C'est ça.
Super.
Voilà, je sais pas si ça répond à...
Non, c'est super. Moi, j'irai voir ce dont tu me parles. Je trouve ça vachement intéressant d'avoir un peu l'arrière-plan de ce qui nous inspire et de ce qui nous nourrit. Donc, voilà. Super. Bah, écoute, Aurore, je suis vraiment ravi d'avoir pu discuter avec toi de ce sujet.
Bah, merci de m'avoir invité.
Avec grand plaisir. Super. Bah, merci beaucoup, Aurore.
Merci à toi. À bientôt.
Salut, Aurore.
Salut.
C'était ma discussion avec Aurore Petit. J'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, je suis ravi d'avoir pu discuter de ce vaste sujet qu'est la parentalité en le liant notamment à nos métiers créatifs. Encore une fois, merci à Aurore pour son temps. Entre les biberons et les couches, j'ai fort apprécié ce petit moment. Si cette discussion vous a plu, je vous invite à le dire à Aurore Petit en la suivant sur les réseaux sociaux et procurez-vous son magnifique livre « Une maman, c'est comme une maison », un récit personnel mais ô combien universel qui raconte non seulement la naissance de son fils, mais aussi sa propre naissance en tant que maman. Si vous ne voulez plus jamais louper un épisode de Sens Créatif, je vous invite à vous abonner sur vos applications de podcast et à me suivre sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, j'en profite pour vous inviter à suivre le compte Instagram dédié au podcast @senscreatif. Et puis, vous pouvez également vous abonner à ma newsletter afin de recevoir toutes les deux semaines, en plus des liens et des notes de chaque épisode, une recommandation pour vous accompagner dans votre vie d'artiste freelance. Un grand merci à tous ceux qui partagent le podcast autour d'eux. Il n'y a pas meilleur ambassadeur que vous. Merci aussi à tous ceux qui ont pris quelques minutes afin de me laisser quelques étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. À l'image de Solène Jolivet qui écrit « Un super podcast, humble, joyeux, enrichissant avec des intervenants qu'on a envie de rencontrer ». Merci pour ces partages d'expériences qui apportent des éléments de réponse aux professionnels de l'image, mais aussi aux créatifs en général. Solène, c'est moi qui te remercie. Et pour finir, si d'épisode en épisode ce podcast vous encourage et vous inspire, je vous invite à devenir membre du club Sens Créatif en soutenant financièrement le podcast sur Patreon. Les contributions démarrent à 2€ par épisode et votre aide me permet de développer ce projet afin de toujours plus vous offrir un contenu de qualité. Me soutenir sur Patreon, en plus de soutenir un projet qui vous tient à cœur, c'est aussi un moyen d'avoir accès aux coulisses du podcast, des infos en avant-première, l'occasion de poser des questions pour des invités à venir, et bien plus encore. Pour en savoir plus, visitez patreon.com/senscreativepodcast. Les liens ainsi que toutes les références sont à retrouver dans les notes de cet épisode. Je termine en remerciant mon ami Adrien Guy pour la musique de ce podcast. Allez jeter un œil sur ses réseaux sociaux @AdrienGuyMusique ou écouter ses morceaux sur sa page SoundCloud. Sur ce, je ne vous donne pas rendez-vous dans 2 semaines, mais bien la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, bonne semaine à tous et surtout, restez créatifs. Ciao, ciao.